Qu'est-ce qui peut défier les lois de la physique connues? Planer sans bruit, puis accélérer instantanément jusqu'à Mach 10, tourner à angle droit et disparaître dans le firmament. Eh bien, on n'en sait rien. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il s'agit forcément d'un ovni. D'ailleurs, oubliez cet acronyme, on parle désormais plus d'ovni, mais de panne, comme phénomène aérien inexpliqué. Ces dernières semaines, en France comme aux États-Unis, des militaires et des scientifiques se sont emparés de la question. Là, c'est un collège d'astronomes qui braque ses télescopes vers le ciel. Ici, ce sont des experts qui publient un rapport très détaillé sur ces phénomènes. Certains trouvent des explications, d'autres non. Longtemps snobés par la communauté scientifique, ces pannes semblent devenir un objet d'étude et c'est tant mieux. Un peu de science dans ses croyances, ça ne fera de mal à personne. Et puis entre nous, vu l'état de la planète, pas sûr Kitty ait envie d'aller y faire un tour. La science est-elle en train de s'emparer des ovnis? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal et c'est la croix qu'on feuillette en ce lundi 16 août avec vous, Dominique Grener, bonjour.
Oui, bonjour.
Et ce qui fait débat dans vos pages, c'est la France à la traîne dans la lutte contre la pollution de l'air.
Voilà, on s'est posé la question pourquoi ça coince. Hein. La France a été condamnée, enfin c'est le Conseil d'État qui a condamné le gouvernement à une amende de 10 millions, donc on s'est posé la question de savoir où on en était sur la lutte contre la pollution de l'air.
10 millions pour 6 mois, parce que si rien n'est entrepris au cours des 6 prochains mois, ce sera à nouveau 10 millions.
Voilà, c'est une sanction récurrente. Hein. Bon, c'est pas une affaire récente. Hein. C'était déjà une injonction du Conseil d'État en 2017 qui demandait à l'État de faire des efforts pour réduire hein, les émissions de particules à suspension et de dioxyde d'azote. Et puis, 3 ans après, on est encore dans un certain nombre de zones largement au-dessus des seuils qui sont fixés par l'Europe.
Des zones, hein, vous le rappelez dans l'article, qui sont au nombre de 8, hein, et les agglomérations Paris, Grenoble, Lyon, Reims, Strasbourg, Marseille, Aix, Toulouse et Fort-de-France. Et une double pollution, en quelque sorte, à la fois la circulation, enfin une pollution de l'air liée à la circulation automobile, mais aussi au chauffage domestique.
Voilà, c'est un des effets d'inertie. Hein. Le parc automobile se renouvelle et de moins en moins polluant, mais il y a un effet d'inertie. Et puis la voiture reste nécessaire dans un certain nombre de lieux, hein, sur le dernier kilomètre, dans des zones voilà, des plus difficilement accessibles. Donc là, la voiture est un peu incontournable. Et puis également le chauffage domestique, et avec aussi voilà, le bois hein, qu'on a pu présenter comme une énergie renouvelable et qui, en fait, émet beaucoup de particules fines.
Ce qui est surprenant, c'est que vous nous dites hein, en effet que bon, le dernier kilomètre, il est toujours compliqué à faire, mais que ce sont des zones où, a priori, les transports en commun, Paris, Grenoble, Lyon, sont très développés.
Oui, c'est ça le paradoxe, mais dans le même temps, ce n'est pas des moyens de locomotion qui sont vus comme plus rapides. Donc, en fait, les gens les boudent un peu. Pareil, pour des déplacements courts, les gens sont plus enclins à prendre leur voiture pour aller aussi vite ou sinon plus vite que les transports en commun. De fait, la voiture est beaucoup plus polluante que les transports en commun. Donc on a vraiment des questions d'urbanisme, hein, d'urbanisation, d'aménagement du territoire qui sont posées derrière cette question de la pollution de l'air.
Avec quand même un point positif, et quand on parle de pollution de l'air, ça fait quand même du bien de le lire, c'est que vous interviewez une spécialiste qui dit si on fait le bilan des 20 dernières années, la situation s'améliore quand même sensiblement.
Oui, c'est ça. En fait, on a 8 zones où on est au-dessus des seuils européens. On en avait 13 il y a 3 ans, donc ça s'améliore. Et y compris dans les zones qui sont encore en dessus des seuils tolérés, voilà, il y a une amélioration, hein, à la fois parce que le parc automobile eh bien, est moins polluant, parce que également au niveau du chauffage domestique, il y a des progrès, des poêles qui sont plus performants quand ils brûlent du bois. Donc voilà, il y a une avancée, mais en fait le Conseil d'État a estimé que la France n'allait pas assez vite. Et donc, c'est une manière d'accélérer le processus de transformation. Hein, il existe des plans hein, pour qui sont efficaces, mais qui ne sont pas assez rapides du point de vue du Conseil d'État.
Eh bien, merci Dominique Grener. Cet article, La pollution de l'air en France, pourquoi ça coince, est à lire dans les pages de La Croix datées de ce lundi 16 août. Merci à vous, bonne journée.
Voilà, bonne journée.
Un cultivateur de Moringhem, M. Daniel Yo, a été le témoin stupéfait, mais observateur, de la présence d'un de ces engins que les scientifiques appellent du terme peu compromettant, d'objets volants non identifiés.
C'était lundi dernier, on venait d'aller manger chez mes beaux-parents, et en rentrant de soir, On est aperçu sur la route comme une boule rouge qui arrivait sur nous. Elle est arrivée sur la droite et dans un virage, elle nous a coupé la route. Alors on a dû freiner brusquement pour l'éviter parce qu'on ne pouvait pas passer en dessous tellement elle passait basse. Et après, elle nous a suivis comme ça 1200-1300 mètres à 15 mètres de nous sur la gauche. Mm-hmm. C'était comme un soleil, c'était rond, mais au-dessus, il y avait une masse, mais on ne peut pas distinguer ce que c'est parce qu'on était éblouis par cette boule rouge.
Est-ce que vous avez l'impression que c'était télécommandé ou qu'il y avait quelqu'un qui pilotait?
On peut dire qu'il y avait quelqu'un dedans, certainement, parce que je vous dis, il y avait des arbres et elle est passée entre deux, alors certainement qu'il voyait clair.
Soucoupe volante ou quoi? Toujours est-il que depuis cette rencontre, les vaches refusent leur nourriture. Les chiens sont fébriles.
Un reportage de la radio-télédiffusion française diffusé en 1960 et tourné à Moringhem, près de Calais, dans le nord de la France. Quatre invités aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelait avant des ovnis. Gabriel Chardin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, physicien, auteur de « Où sont-ils, les extraterrestres ou le paradoxe de Fermi ?» C'est aux éditions du CNRS. Thomas Margoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine et votre thèse a porté justement sur l'ufologie en France de 1945 à 2012. Xavier Passot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien responsable du GEPAN. Alors le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Merci d'être avec nous, un peu au débotté, je dois l'avouer, hein, puisque on avait eu du mal à vous joindre. Et puis Audrey Plenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice de science-fiction, novelliste. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui dans le débat de midi. Alors dans le petit extrait de reportage qu'on vient d'entendre, il y a à peu près tous les clichés qu'on imagine hein, dès qu'on parle d'OVNI, l'agriculteur local, le journaliste, un brin condescendant, il faut le dire, les animaux terrifiés. Thomas Margoux, sur la thèse que vous avez travaillée, vous avez pu, dans votre travail, donc rencontrer des gens qui avaient vu des objets volants non identifiés, recueillir leurs témoignages. Et sont des témoignages qui viennent, selon vous en tout cas, essentiellement de CSP+, de gens diplômés, rationnels, cartésiens.
Oui, c'est exactement ça. Quand j'ai commencé mon travail, il faut bien dire que je connaissais à peu près rien du phénomène OVNI. Pour ça, j'ai dû du coup rencontrer les témoins, c'est surtout cela. Alors l'ufologie ne se résume pas aux témoins, bien sûr. Hein. Mais c'est eux que je suis allé rencontrer. Je me suis aperçu très vite, notamment en faisant une base de données à partir de la plus grande revue Lumière dans la nuit, que tous ces clichés véhiculés par les médias, au final, ne tenaient pas. C'est-à-dire que dans l'extrait qu'on a entendu, effectivement, on a tout. On a le cultivateur, donc une certaine frange de la population. On a la situation, c'est après un repas, donc ça sous-entend des choses encore. Et il a vu une lumière. On a des questionnements qui supposent que l'appareil serait piloté, qu'il y aurait des effets sur les vaches, sur les chiens. Enfin bon, on a un florilège de tout ça. Et quand on va gratter les témoignages en eux-mêmes, on s'aperçoit qu'en fait, tout ça ne tient pas. Les témoins sont effectivement en grande majorité de catégories sociales supérieures, moyenne supérieure. Sont souvent des hommes. Il y a des femmes également aussi, mais c'est pas une majorité. Et cette image du témoin d'OVNI sur son tracteur dans son champ ne tient pas non plus, puisque la grande majorité des ufologues actifs sont des urbains. Via des tissus associatifs, etc., qui leur permettent effectivement d'échanger sur ce qu'ils ont vu.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Thomas Margoux, c'est qu'il y a une forme de construction médiatique.
Oui, complètement.
Du témoin.
Exactement. Enfin, une construction médiatique aussi par les médias. Ça, je pense que effectivement, des personnes comme Pierre Lagrange ou Bertrand Meuse pourront en parler bien mieux que moi. Mais il y a une recherche. Il y a eu à un moment donné effectivement une recherche par les médias également de ce témoin qui ferait aujourd'hui ce qu'on appelle le buzz, c'est-à-dire de l'effet sensationnel. Et effectivement, comme vous l'avez dit, avec une certaine condescendance par la même. On cherche le fantastique, le formidable.
Xavier Passot, vous avez dirigé le GEPAN, hein, donc je le redis, ce groupe d'études affilié au CNES qui étudie ces phénomènes inexpliqués. Le GEPAN a recueilli 8000 témoignages, on peut d'ailleurs lire certains témoignages hein, sur le site internet, c'est assez intéressant.
Oui, il y en a plus de 2 ou 3 000 maintenant qui sont en ligne. Hein.
et est-ce que parmi ces 8000 témoignages, il y a un profil qui ressort plutôt qu'un autre?
Non, il n'y a pas de profil. Le témoin d'OVNI, c'est vraiment, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Hein. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui a été surpris une fois par un phénomène tout à fait insolite qui l'a généralement beaucoup perturbé et qu'il n'a pas su identifier. Voilà. Mais c'est, le témoin d'OVNI, il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de schéma type du témoin d'OVNI. Hein. faut bien se mettre ça dans la tête.
On entendait, justement, on emploie le mot OVNI depuis le début de l'émission, on entendait le journaliste de 1960 dire le terme peu compromettant OVNI, qui peut vouloir tout et rien dire. Et il se trouve qu'on emploie de moins en moins, en tout cas la communauté scientifique emploie de moins en moins le mot OVNI au profit du sigle PAN, donc phénomène aérien non identifié. Il fallait ce changement?
Alors, dans le mot OVNI, il y a le mot objet. Et il s'avère que dans de nombreux événements observés, le phénomène lumineux n'est pas forcément un objet. Hein. Ça peut être un reflet, ça peut être des aurores boréales, par exemple, des choses comme ça, qui ne sont pas des objets. C'est pour ça qu'on préfère le terme moins précis, on va dire, plus vague, de phénomène aérospatial, hein, plutôt qu'aérien d'ailleurs. Le A est plutôt aérospatial qu'aérien, parce qu'il peut y avoir des phénomènes spatiaux, et le N de non identifié. Voilà.
Alors, on dira bien plus OVNI, mais PAN ou PAN, je ne sais pas s'il faut le dire à la française ou à l'anglaise, le terme est neuf et il n'est pas encore en tout cas rentré dans les médias. Gabriel Chardin, vous êtes objet ou phénomène plutôt? Vous qui êtes physicien.
Phénomène, probablement, mais après on va peut-être essayer d'identifier des objets. Pour le physicien, probablement la question, s'il regarde de l'extérieur, il essaye de faire une synthèse depuis ce qui s'est passé depuis 70 ans, et il voit quand même peu de choses vraiment indiscutables, quoi. Donc, à peu près à cette époque-là, d'ailleurs, le grand physicien italo-américain Enrico Fermi, lui, avait posé la question différemment, c'est-à-dire en se posant la question de savoir si dans notre galaxie est-il probable ou pas qu'il y ait beaucoup d'extraterrestres. Et après, donc, ayant fait le calcul et étant arrivé à un nombre énorme, pourquoi, où sont-ils?
C'est pourquoi le fameux paradoxe de Fermi, voilà, dont on ne peut pas s'empêcher de parler quand on parle des ovnis.
Cette question-là, et la question des exoplanètes, qui a complètement explosé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, avec un prix Nobel récent, Michel Mayor. Le début d'observation dans notre voisinage, hein, parce que c'est vraiment pas très loin, de plusieurs milliers maintenant d'exoplanètes. Donc ça a l'air d'être très courant, effectivement.
Donc on ne peut que se dire que s'il y a plusieurs milliers d'exoplanètes, vraisemblablement il peut y avoir de la vie autour de, enfin dans ces planètes.
Il faut bien voir qu'on voit l'environnement au point de vue planète, l'environnement, la banlieue très proche de la Terre, et donc dans la galaxie il y a plutôt des centaines de milliards de planètes. Donc là, il y a un réservoir, et comme il est probable, l'eau a l'air d'être quelque chose de... l'eau et le carbone, des éléments qui sont là pratiquement toujours, à au moins une certaine époque de la planète. Il y a donc très probablement des formes plus ou moins évoluées, hein, peut-être juste toujours monocellulaires, on ne sait pas. La vie devrait être effectivement extrêmement courante.
Audrey Plenet, vous qui êtes autrice de science-fiction, si on revient sur cette histoire de, faut-il appeler objet, c'est soucoupe volante, c'est fausse soucoupe volante ou phénomène, vous préfériez lequel? J'imagine objet, parce que pour un auteur de science-fiction, c'est quand même plus excitant, l'objet.
Oui, tout à fait. La science-fiction va effectivement parler de cette apparition des lumières dans la nuit, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il y a derrière, et une fois que effectivement on a connaissance de la raison de ces lumières, on est sur un vaisseau spatial, donc on est sur un objet, on est sur une rencontre, on est sur une invasion ou autre, mais on n'est plus sur l'objet, parce que la science-fiction va, même si elle peut s'attacher dans les premières pages ou minutes de film à décrire cette fascination des lumières qu'on voit, mais après elle s'attache à donner la suite de l'histoire, qui est à un moment cette rencontre avec ce qu'il y a dans l'objet.
L'histoire a besoin d'un objet.
Voilà, donc il nous faut un objet qui va être le contenant, en fait, d'une intelligence venue d'ailleurs, avec qui vont pouvoir échanger ou combattre ou autre.
Thomas Margoux, au cours de l'élaboration de votre thèse, vous avez pu aussi constater que, notamment la littérature de science-fiction avait énormément contribué à médiatiser ces fameuses soucoupes volantes ou ces petits bonhommes verts.
Oui, non seulement l'a a contribué, mais également tout ce qui est les séries, les films. Il y a une histoire parallèle hein, entre les deux. Ce que je voulais ajouter également aussi, c'est que il faut faire attention quand on parle de, on va dire des ufologues, donc ceux qui sont concernés par le sujet. Faut faire attention à ne pas les réduire à seulement l'hypothèse extraterrestre. Ça serait très très réducteur, puisque dans ce milieu-là, il y a aussi ceux qui s'y intéressent de manière scientifique pure et pure dure, qui essayent d'appliquer les méthodes scientifiques pour démontrer un phénomène inexpliqué. La partie finalement extraterrestre qui pense ça, finalement n'est pas majoritaire et surtout n'est pas révélatrice du mouvement dans sa globalité. Et c'est pour ça aussi qu'on a des différences entre mes bases de données, enfin ma base de données et les autres, et celle du GEPAN dont a parlé Xavier Passot, c'est-à-dire qu'on s'appuie pas sur les mêmes résultats. Mais il faut faire attention à ne pas être réducteur, de même qu'il ne faut pas réduire tous les témoignages d'OVNI à la science-fiction ou à X-Files.
Xavier Passot.
Oui, donc c'était tous ces témoignages d'OVNI, qui sont très nombreux, viennent souvent d'une mauvaise interprétation d'un phénomène insolite et spectaculaire. Il faut savoir que la grande difficulté est d'estimer la distance d'un phénomène inconnu. En fait, on ne peut pas, l'être humain ne peut pas déterminer la distance d'un objet qu'il n'a jamais vu. Tout ce qu'on voit dans notre environnement, que ce soit des arbres, des maisons, des montagnes, tout ça, on en estime la distance par notre culture. Mais si on voit juste un point lumineux très brillant dans le ciel, on va y mettre une distance, mais elle est a priori fausse. Elle n'a aucune raison d'être. Quelle que soit l'expertise qu'on a, hein, qu'on soit pilote de chasse ou agriculteur, on fera la même erreur. Simplement parce qu'on n'a jamais, on ne sait pas ce que c'est. Donc, l'origine de toutes les méprises quasiment de ce phénomène OVNI est une mésestimation de cette distance. Voilà, c'est ainsi que certains prennent la Lune ou le Soleil, par exemple, comme un objet très proche, et se sentent poursuivis, par exemple, puisqu'ils n'ont pas identifié que c'était la Lune, et en fait, ils ne savent pas. Idem pour les chutes de météorites, hein, qui sont des phénomènes très très brillants, qu'on estime très très proches, alors qu'en fait, ils sont à 20 ou 30 kilomètres d'altitude. Voilà, donc ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose, c'est que dans cette culture OVNI, tous les cas dont on parle à la radio, à la télévision, dans les livres, etc., sont des cas inexpliqués, bien entendu.
Mais qui ne représentent que 4% d'ailleurs hein, de ce que le GEPAN a publié.
Voilà. Et en fait, je dirais, on n'apprend rien sur un cas inexpliqué. Par contre, on apprend énormément sur les cas expliqués. Mais ceci n'intéresse personne, à part les ufologues scientifiques les plus sérieux. Alors, en fait, c'est en étudiant ces cas expliqués qu'on comprend que le témoignage humain est bien imparfait et on comprend pourquoi toutes ces méprises sont faites. Alors c'est ainsi qu'il y a quelques cas célèbres dont je parle dans mon livre là, où les témoins décrivent des choses vraiment très extraordinaires, des vaisseaux qui sont décrits comme le vaisseau de Star Trek ou presque hein, à basse altitude. Et puis en fait, on découvre qu'on est absolument certain que ces gens-là n'ont vu que une grappe de lanterne thaïlandaise là, des lampions volants. Et que c'est le témoin lui-même qui a imaginé ou recréé dans son esprit une enveloppe de ces points lumineux qu'il a vus. Voilà en quelques mots, quelques clés, je dirais, pour
comprendre en tout cas pourquoi on peut prendre les lanternes, puisque vous parlez des lanternes thaïlandaises pour des vessies. Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, Frédéric nous dit « Je crois en la vie extraterrestre sous toute forme possible, mais pas en la visite d'extraterrestres sur Terre. C'est une vision auto-centrée de terriens, pensant être important dans l'univers alors que la Terre n'est qu'une petite poussière de rien du tout dans notre galaxie. » Et puis Benjamin nous dit « J'ai 49 ans, j'ai tendance à prendre les choses avec un semblant de recul, mais quand on parle d'OVNI, d'extraterrestre, alors là, ça me fait rêver. Je prends ça pour un conte, une histoire à laquelle on a envie de croire et qui fait rêver. Comment la science peut-elle étudier le phénomène aérien, aérospatial, donc non identifié ? C'est la question qu'on se pose ce midi. Avec vous aussi, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, faire vos appréciations sur le site de l'émission ou sur l'appli. Bel été à l'écoute de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that Elle s'appelle Lord, elle est néo-zélandaise et Solar Power. C'est le titre de cette chanson qu'on vient d'écouter, il est midi 28.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Extrait évidemment de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg avec entre autres François Truffaut. Hein. Il se trouve que son personnage est inspiré d'un Français du nom de Jacques Vallée, l'un des premiers scientifiques qui s'est intéressé au sujet. Quatre invités aujourd'hui pour parler donc de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, comme on les appelle maintenant. Thomas Margoux qui est docteur en histoire, Gabriel Chardin qui est physicien, Xavier Passot, ancien responsable du GEPAN, et puis Audrey Plenet qui est autrice de science-fiction. Cet homme, Jacques Vallée, faisait partie, d'ailleurs il a monté ce qu'on appelle, ce qu'on appelait à l'époque le Collège Invisible. Qu'est-ce que c'est, Xavier Passot, le Collège Invisible ?
Alors, le Collège Invisible, c'est un groupe de quelques scientifiques, hein, donc dont Jacques Vallée, bien sûr. Il y avait un astrophysicien, il y avait qui s'était donné pour mission d'étudier scientifiquement justement ce des observations, enfin des rapports d'observation de d'objets appelés à l'époque OVNI, enfin de phénomènes appelés OVNI. Et donc ça c'était dans les années 1970. C'est ce qui a donné en fait la naissance un peu plus tard au GEPAN en 77, puisque Claude Poher, qui a été le premier responsable du GEPAN, a eu l'idée finalement de mettre en pratique cette méthode scientifique qui avait été mise en place, je dirais, inventée
pour observer les
invisibles, pour étudier les phénomènes et voir vraiment s'il y avait quelle était la réalité de ces phénomènes et que pouvait-on en déduire.
Alors, il n'y a pas que la science-fiction qui s'intéresse aux ovnis, Audrey Plenet. Récemment, le Pentagone a reconnu avoir filmé, d'ailleurs on a pu voir quelques images assez fascinantes, faut l'avouer, donc a reconnu des phénomènes identifiés. Sigma 2, une commission d'enquête en France, vient de rendre un rapport très détaillé après 8 années de travail. Des chercheurs de grandes universités, Harvard et Cambridge, s'associent notamment. Est-ce que ça veut dire que la science est en train de s'emparer de ce dossier phénomènes aérospatiaux inexpliqués, Gabriel Chardin?
Je ne pense pas qu'il y ait de modifications majeures.
Le hasard des calendriers?
Un petit peu, avec une déclassification au Pentagone, une incitation à ce que les gens ne soient pas déshonorés s'ils sont pilotes de chasse ou d'aéroplane qui voient quelque chose, autant qu'ils en fassent un rapport éclairé plutôt que de le cacher. Voilà, donc c'est une attitude très saine. Comme on l'a dit, quand même, après 70 ans, s'il y a aussi peu de choses solides, on n'a quand même pas vu premier contact et quelque chose qui débarque dans notre jardin avec un énorme vaisseau spatial, quoi, ou que tout le monde a pu voir. Donc le scientifique, il a plutôt tendance à se dire que c'est pas la question scientifique la plus intéressante. La question scientifique la plus intéressante, c'est de comprendre combien de planètes dans notre galaxie, parce que après c'est quand même vraiment dur d'aller de galaxie en galaxie. On parle de millions d'années-lumière, on va être quand même très désynchronisé. Mais dans notre galaxie, 200 et quelques milliards d'étoiles, des centaines de milliards de planètes, là, il y a de quoi faire. Et donc, probablement, la question, dès les années 70, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Enrico Fermi, donc un prix Nobel, un très, très grand physicien, les gens se sont posé la question.
Ça doit vous rassurer, Audrey Plenet. Donc la science-fiction peut continuer encore à inventer des histoires.
Oui, c'est un terrain de toute façon assez infini, puisque même si on a donc tout ce grand nombre d'exoplanètes, et puis même dans les témoignages de vision d'OVNI ou de Pan, tout est possible en fait. C'est pour l'instant c'est juste une lumière dans le ciel pendant ces quelques débuts, mais après ça peut être une rencontre pacifique, ça peut être une invasion, ça peut être un échange de technologies, ça peut nous apprendre aussi nous en fait. Ça nous interroge beaucoup sur nous, comment on doit décrire l'altérité en science-fiction. On écrit beaucoup sur rencontres avec d'autres espèces, d'autres intelligences, ce que ça dit de nous-mêmes, des êtres humains, comment on est capable de les accueillir. D'accueillir l'autre, et également c'est comment ça nous ferait réagir en tant que civilisation, parce que là on parle d'observation isolée de un ou deux témoins, mais dans la science-fiction on est souvent dans des récits où toute la population planétaire voit arriver toute une flotte de vaisseaux, donc il y a un côté comment on réagit ensemble sur vraiment une observation de masse. Est-ce que ça va faire au niveau géopolitique? Est-ce que ça peut unir la planète, unir les pays? Est-ce que ça peut également... l'impact que ça aura sur les religions, qui ont un peu, jusqu'à maintenant, le monopole des lumières et des apparitions dans le ciel. Donc, tout cela est ouvert à la science-fiction, qui fait beaucoup de prospectives, et tous ces scénarios sont possibles.
Sur franceinter.fr, Christian nous dit « Depuis que je suis tout petit, je regarde régulièrement le film Rencontre du troisième type », on a entendu un extrait tout à l'heure, qui montre les ovnis comme un événement énigmatique, sibyllin, sans attaque ni destruction massive, mais de la pure magie. Les ovnis, c'est croire au merveilleux. Et puis enfin, je me couchais dans l'herbe la nuit venue et je croyais apercevoir des ovnis, mais il s'agissait d'étoiles filantes ou de satellites de passage. C'est vrai que ça nous fait fait rêver, hein, toujours. Et puis Isabelle qui nous dit, depuis des dizaines d'années, des signalements en tous sens ont été effectués, les témoins ont été décrédibilisés, la science fut éloignée du débat. Grâce à la reconnaissance par le Pentagone du phénomène, nous nous mettons à regarder cette problématique autrement. Comment réconcilier observateurs et scientifiques? C'est une question que nous pose Isabelle et que je peux vous poser aussi, Thomas Margouve, qui est historien, qui avait travaillé justement sur cette question. Comment réconcilier la science d'un côté et les gens qui sont persuadés d'avoir vu des ovnis de l'autre?
Alors, au risque de vous décevoir, c'est très compliqué, puisque... Bon, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux sciences et aux phénomènes OVNI, en fait, il se passe une espèce de désertion, c'est-à-dire que autant le milieu anglo-saxon est très en avance, a toujours été un petit peu en avance sur la question, autant nous, même avec le GEPAN, on est un petit peu à la traîne, dans le sens, je parle d'un point de vue universitaire, puisque le sujet a été délaissé aux sociologues, aux ethnologues, qui finalement font aux psychologues aussi, qui font des travaux sur le groupe, sur l'altérité, etc. Et quand on essaie de faire un travail, par exemple, pour mon cas en histoire, on se retrouve, notre sujet est jugé pas sérieux. C'est-à-dire que quand j'ai commencé et que j'ai dit que je voulais faire un travail sur les ovnis, il n'y a guère que mon directeur de recherche qui me dit oui, mais c'est un sujet où on peut faire de l'histoire dessus. Le reste, faut pas espérer faire carrière en histoire sur un tel sujet, puisqu'il est jugé par la communauté académique française comme quelque chose de pas sérieux. Donc, le reconnaître, c'est compliqué. Après, quand on va voir les ufologues en eux-mêmes, j'ai toujours eu un excellent accueil. Le problème, c'est que j'avais toujours l'impression que moi, faisant un travail d'histoire, donc j'étais pas là pour dire si les ovnis existaient ou pas, c'était pas ma question, c'était faire un fait d'histoire. Je me suis retrouvé face à une masse d'informations absolument gigantesques, ne pouvant pas exploiter les thèses, finalement, qui disent ça existe ou ça existe pas, puisque c'était pas ma question finale, et je me suis retrouvé face à une immensité, au final, avec un sujet qui est très 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 peu travaillé en France. C'est-à-dire qu'on a une communauté d'amateurs, dans le sens absolument pas péjoratif, dans le sens juste non universitaire, qui travaillent, qui passent leur vie, pour certains, à travailler ce sujet-là, qui font des ouvrages excellents, mais d'un point de vue universitaire proprement parlé, on est vraiment pas nombreux. Et ça pose problème. Je parle encore une fois de la France. Et donc, réconcilier la science et ce milieu-là, ça va se faire pour moi uniquement avec du travail avec plusieurs personnes, y compris avec les ufologues eux-mêmes, et je ne vois pas comment on peut travailler ce sujet-là sans avoir un groupe de réflexion universitaire avec plusieurs disciplines, puisque je me suis retrouvé à fouiller quand même plusieurs disciplines pour essayer de faire un sujet d'histoire là-dessus. Donc c'est très très compliqué.
Mais on peut prendre en contre-exemple le rapport que vient de fournir la commission Sigma 2, qui regroupe des physiciens, des astronomes, il y a des astronomes et des astronautes, il y a aussi le français Jean-François Clairvoy qui en faisait partie, donc un regroupement de différentes sciences qui ont travaillé ensemble sur ce rapport. Xavier Passot, est-ce qu'il y a un mouvement qui est en train de s'imprimer? Est-ce que, oui ou non, la science commence à s'y intéresser et avec sérieux?
Alors, la science, la science traditionnelle a toujours été très frileuse pour étudier ce phénomène, tout simplement parce que c'est pas reproductible et qu'on ne part que de témoignages humains. Et dans les sciences dures, on n'a pas les méthodes pour travailler avec du témoignage humain non reproductible. C'est pour ça que c'est surtout les sciences humaines qui s'intéressent au phénomène OVNI. Voilà. Donc même pour estimer, par exemple, ne serait-ce que la vitesse d'un ovni, par exemple, ou d'un pan, on a pu citer que ça allait à Mach 10 ou des choses comme ça. Tout ça, ce n'est basé que sur des témoignages humains avec des gens qui sont a priori n'ont pas su estimer les distances et encore moins les vitesses. Donc déjà, même sur un phénomène, une chose comme ça, quoi, l'estimation des vitesses maximales, par exemple, des phénomènes qu'on peut observer, déjà en sciences dures, on n'y arrive pas. Et là, je dirais, toute la problématique, tout le malentendu entre le grand public et les scientifiques, elle réside là. C'est-à-dire que le témoin, lui, il a vu quelque chose qui allait très vite, qui lui paraissait aller 10 fois plus vite qu'un avion, par exemple. Mais, en fait, n'est jamais qu'une estimation qu'il a faite lui-même, qui n'est basée que sur sa propre perception visuelle, laquelle est tout à fait fragile. Mais ça, il ne le sait pas. Et il pense qu'on ne le croit pas, d'ailleurs, quand on lui dit « Mais ce que vous avez vu, c'est la vitesse que vous estimez, en fait, c'est juste un point lumineux qui s'est éteint progressivement, et c'est pas éloigné, il s'est éteint progressivement. Et là, il y a un gros malentendu qui est l'origine, je dirais, de cette fracture entre la communauté scientifique et les témoins de Pan. Et pour le GEPAN, d'ailleurs, c'est un très gros problème quelquefois d'annoncer des explications aux témoins qui ont vu des choses
qui sont persuadés
tout à fait extraordinaires. Et quand on leur révèle que c'est des choses assez banales qu'ils ont vues et mal interprétées, c'est toujours très choquant pour le témoin.
Et puis il y a aussi ces inquiétudes des gouvernements que le pays d'à côté ait réussi à inventer une nouvelle technologie qu'on ne possède pas. On pense évidemment aux Chinois, aux Russes ou aux Américains qui sont toujours très inquiets, qui refusent aussi de divulguer leurs informations, Audrey Plenet.
Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours la question de niveau géopolitique, ce que ça impliquerait. On n'est pas sur une planète Terre unifiée qui ferait face à une civilisation unifiée en face. Donc il y a ça, il y a aussi les questions aussi de technologie, de réappropriation technologique, de développer de nouvelles choses, d'avoir des armes. Mais là, on est tout de suite dans un mode de pensée qui est dans la compétition, en fait. Compétition entre nous-mêmes, entre nations, pour récupérer les technologies, développer des nouvelles technologies. Donc là, tout de suite, on est dans un état d'esprit qui est vers le conflit, immédiatement. Et c'est vrai qu'il y a des œuvres de science-fiction qui ont essayé de ramener plus vers un état d'esprit qui est du dialogue, de l'échange, de la co-construction face à ces phénomènes.
Je ne sais pas si vous avez vu l'ancien président Barack Obama interviewé assez récemment à la télévision américaine, et il racontait avec beaucoup de malice que quand il était arrivé à la Maison Blanche, il avait demandé s'il y avait un laboratoire secret où on gardait les spécimens extraterrestres, les vaisseaux spatiaux, et les gens de la Maison Blanche avaient évidemment très sérieusement, c'était le président quand même, très sérieusement fait des recherches avant de dire non, il n'y a rien. Ce qui est vrai, ensuite ajouté Barack Obama, et là je suis sérieux, c'est qu'il y a des vidéos et des images d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont, Gabriel Chardin.
Ce qui n'est pas très étonnant en soi, c'est-à-dire que si on enregistre à tout va, on va avoir un certain nombre de phénomènes, généralement optiques. Parce que après, en radar aussi, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'observations radar. Par exemple, le vent, etc., les oiseaux, etc., on peut les repérer avec des radars. Donc, des gros objets de type capable de traverser des années-lumière, je pense qu'on le verrait quand même en radar. Et donc, malheureusement, il en reste très très peu. Du coup, pour les scientifiques, comme on l'a dit, la question c'est déplacer largement. C'est-à-dire que le scientifique serait preneur. C'est ce qu'a dit le premier auditeur dont vous avez lu le témoignage. Il croit à la vie extraterrestre, il ne croit pas aux ovnis. Moi, je suis ouvert aux ovnis. Je serais absolument fasciné s'il y avait un témoignage qui était bien visible et contrôlable d'ovnis. Mais la question pour le scientifique est beaucoup plus au niveau vie et exoplanète et autres civilisations, mais sans contact avec nous, probablement.
Alors, il y a quand même des constantes. On parle souvent d'objets en forme d'assiette qui tournent sur lui-même, ou alors de forme triangulaire, de vitesse vertigineuse. On l'a entendu en début d'émission, mais d'animaux qui sont troublés, de changements de direction que la physique ne peut pas exister, ou bien d'appareils électroniques qui se mettent subitement à dérailler. On retrouve un peu tout ça, Thomas Margoux. Alors, est-ce que c'est des inventions liées à la science-fiction, ou est-ce que les témoins se sont passés le mot? Comment on peut expliquer ces constantes?
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, je pense déjà que la science-fiction n'a fait que qu'extrapoler quelque chose qui était déjà là. C'est-à-dire que lier l'invention des ovnis et des apparitions à la science-fiction, pour moi, est un peu maladroite. Mais pour ce qui est des objets, il faut bien vous dire que je pense à Kenneth Arnold, qui était le premier en 1947, finalement, à parler de ces soucoupes volantes-là.
Qui a découvert en vol, justement, ce qu'il a ensuite décrit comme une soucoupe volante.
C'est ça. Et il faut attendre 52 pour avoir Ruppelt qui va lancer l'acronyme de d'OVNI. Et faut bien vous dire que entre 1947 à peu près hein, et 1977, voilà les années, on va dire les années 70, les témoins d'OVNI voient tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas que des sphères, etc. On a des formes allongées, on a des lumières, on a des sphères, on a à peu près toutes les formes, des entonnoirs, des voilà. Il y a à peu près une grande diversité d'objets qui est vu, il y a beaucoup de lumière aussi, vraiment il y a énormément de choses, donc effectivement ce terme de soucoupe volante qu'on a tendance à mettre de manière généraliste, alors, il est pratique parce qu'il est français, tandis que on parle depuis tout à l'heure je parle d'ufologie, mais c'est un anglicisme énorme en fait, et en fait il ne recoupe pas vraiment de réalité derrière ça.
Essayez panologie, ça peut peut-être fonctionner avec le nouvel acronyme PAN. Comme ça, phénomène aérospatial non identifié. Et Xavier Passot, malgré tout, sur cette, sur ces constantes que les témoignages peuvent avoir, sur ces constances, pardon.
Je pense qu'il y a une évolution. Hein. Il y a eu une évolution depuis la vague belge, par exemple. On parle beaucoup de triangles. La vague belge, c'était des observations de beaucoup de triangles qui étaient probablement des avions pour la plupart d'ailleurs, il y a des modes quand même. Hein. J'ai vu dans les observations d'OVNI, au fur et à mesure de l'histoire, on voit des formes plus ou moins à la mode. Des cigares volants, par exemple, étaient dans les années 50. Moi, dans les témoignages récents du GEPAN, j'ai pas vu de cigares volants.
Alors aujourd'hui, ce serait quoi la mode?
Le triangle est très très tient la corde là. Le triangle lumineux, c'est-à-dire avec trois points lumineux on fait un triangle, donc ça va bien, et donc les témoins voient trois points lumineux dans le ciel, hop, ils disent triangle et ovni, etc. Donc j'ai vu un ovni, donc voilà un petit peu comment ça se passe. Il y a des stéréotypes qui sont à la fois entretenus par les articles ou par les médias, on va dire, qui relatent ce type d'observation. Et puis du coup, les témoins, quand ils voient quelque chose d'insolite, ils essayent de rapprocher ça des récits qu'ils ont pu lire ou voir.
Sylvie nous dit sur l'appli de France Inter, même si je suis une grande fan de E.T. et de Spielberg, je ne crois pas aux extraterrestres. Pour autant, en novembre 1990, un soir à Paris, j'ai vu un engin triangulaire, donc noir, glissé au-dessus des immeubles de la rue Etex dans le 18e arrondissement. Le lendemain, les journaux et la presse en ont parlé. Je n'étais donc pas la seule témoin de ce phénomène, mais je ne sais toujours pas ce que c'est et c'est un peu frustrant. C'est justement là-dessus que surfe la science-fiction, sur cette frustration-là aussi, Audrey Plenet.
Oui, tout à fait.
Donner une explication, en tout cas une histoire, raconter une histoire à ce à quoi on ne peut que croire parce qu'on l'a vu.
Oui, il y a ce moment de frustration parce que je pense que les personnes qui vont témoigner, déjà elles vont pas toutes témoigner en fait, parfois garde pour elles ou en parle autour d'elles, ou alors vont voir si dans la presse quelqu'un d'autre en a parlé, s'il y a une explication, et parfois n'en parle plus pendant en l'occurrence quelques décennies. Donc il y a cette frustration, mais il y a toujours la frustration quand on lève les yeux au ciel de vouloir des réponses et qu'elles de pas les obtenir facilement, surtout quand on n'est pas dans la sphère scientifique. On pourrait avoir cette question du nombre d'exoplanètes avec le nombre les statistiques qui quelque part apporterait déjà un élément de réponse. Alors la science-fiction va essayer d'aller tâter un peu du côté de ces réponses, de ces questions, et c'est toujours un peu le fait d'avoir cette visite, ces visiteurs qui viendraient sur Terre, c'est avoir enfin une réponse en fait, une réponse qu'on se pose tous, qu'on s'est tous posé à un moment, et il y a une question un peu de soulagement. Finalement, on saurait. Et quelque part, je pense que on peut pas trop séparer la question des pans des ovnis et un peu de la sphère complotiste de finalement on nous cache quelque chose, et qui aurait quelque part la frustration aussi que en fait, il y en a qui savent, il y a des sachants, il y a des scientifiques qui savent, mais on le cache au grand public. Et c'est aussi une frustration qui est difficile à vivre. D'où tout le côté, en fait, il y a des dossiers cachés, etc.
On va y revenir, justement. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. La science et les phénomènes aérospatiaux inexpliqués, c'est le thème de notre émission ce midi. On attend toujours vos réactions, vos questions sur le site de France Inter.
Loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
Alléluia, pas d'auréole mais couronne sur ma tête. Je m'en suis sorti parce que je me débrouillard. Je crois en Dieu et je crois en moi-même. Depuis le début, rien qui nous méprise. Négro, bien sûr que je préfère les miens. Je te déteste comme tous les gens qui me disent. J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien. On a fait le ménage et le sale boulot. Jamais écrit, on n'a jamais ragé. Parfois, faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je cruge. J'ai toujours refusé de juger les autres parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je conne. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le Terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai crisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. L'évolution sera pas télévisée, elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace mais la terre à tes pieds. En combi d'astronaute à l'arrêt de bus, je confonds la NASA à la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop, fils d'immigré aura toujours la dalle. En amour c'est dur de rester au top, dur comme t'as fait les abdos à la salle. Je suis le daron de la matrice, fume cigare sans cannabis, ouh. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, ra, presque en solo, j'ai même pas de grosse équipe. Me parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre. L'amour, les océans de larmes. J'suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà. Prims.
Astronaute, loin du soleil.
Le rappeur Youssoupha et ce titre qui nous va bien ce midi, Astronaute, il est midi 52.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Quatre invités pour parler ce midi des phénomènes, donc puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, aérospatiaux non identifiés. Thomas Margou qui est historien, Gabriel Chardin, physicien, Xavier Passot, ancien responsable du groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et Audrey Plenet qui est autrice de science-fiction et novelliste. Et puis ces messages qui continuent de nous arriver. Jean-Yves, un peu énervé, nous dit encore une émission qui cherche à démontrer que les ovnis n'existent pas et que les témoins ne sont que des ânes capables de les confondre avec des lanternes en papier. Mais je vous garantis que quand vous êtes témoin scientifique et pilote, vous n'avez aucun doute. Sébastien qui nous dit: que pensent vos invités des dernières vidéos provenant des avions de chasse de l'armée américaine qui présentent des pilotes confrontés à des ovnis? Et puis Bruno, ne doit-on pas redouter la rencontre avec des extraterrestres dans la mesure où toute civilisation supérieure a détruit les autres civilisations? C'est une question pour vous, Gabriel Chardin, parce que vous, précisément vous travaillez sur cette question.
Dire que je travaille sur la question, c'est peut-être un peu exagéré, mais on se l'est posé. Et effectivement, L'accession à la technologie est très 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 récente. Au niveau cosmologique, c'est même pas un clin d'œil, c'est 200 ans sur l'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années. C'est rien du tout. Donc effectivement, si on cherche à contacter ou si on nous contacte, il est probable qu'une civilisation extérieure serait bien plus avancée que nous, ne serait-ce que parce qu'elle arrive. Donc peut-être les gens qui veulent envoyer des choses vers l'extérieur, voilà, c'est un petit peu risqué quoi, à notre stade de développement extrêmement limité. Après, effectivement, la meilleure stratégie peut être et a été pour des physiciens, des astronomes notamment, avec Atacama ou avec un certain nombre de grands observatoires, d'essayer d'écouter le ciel et de voir si il y a des messages qui nous arrivent. Et certains sont assez impressionnants, même si aujourd'hui on les interprète différemment.
C'est un projet qui s'appelle SK1, qui va être d'ailleurs bientôt...
Alors il y a SKA qui vient d'être approuvé au niveau... Voilà, la France va y participer. C'est un grand projet international qui va mettre une bonne dizaine d'années.
Et bon, écoutez, 100 000 systèmes solaires, ça, on imagine que ça peut prendre du temps, oui.
Voilà, 100 000 systèmes solaires, ça sera plutôt dans 20 ans. Mais quand même, ça veut dire, c'est à nouveau 20 ans, c'est pareil.
C'est ce projet, hein, oui. de mettre des oreilles en direction de l'espace, en quelque sorte.
Par rapport aux 200 milliards d'étoiles, on voit que c'est quand même le voisinage immédiat à nouveau de la Terre. Mais 100 000, on peut commencer à faire des statistiques et voir si on entend une civilisation comme la nôtre. C'est-à-dire, donc, on est capable d'entendre un radar d'aéroport. À peu près, en puissance, à cette distance-là. Et donc, si à ce moment-là, il y a des civilisations qui ont ce type de fonctionnement-là, on les entendra probablement. Et ça, c'est une information complètement différente de tout ce qui a été vécu jusqu'ici.
Alors, il y a sur le site du GEPAN, dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi des observations qu'on n'arrive pas à expliquer. Je prends un exemple, hein, il y en a quelques-unes sur le site qu'on peut voir. Hein, en date du 24 juin 1994, une durée de 10 minutes, elle provient de gendarmes en patrouille, donc on ne peut pas soupçonner d'avoir voulu trafiquer une vérité, hein, et qui ont croisé en pleine nuit, à nouveau, une forme triangulaire, lumineuse, stationnaire, au-dessus de l'autoroute à Ussy-sur-Marne, en région parisienne. Ils ont arrêté leur véhicule. L'objet s'est approché doucement pour stationner au-dessus de la voiture, disent les gendarmes. Et lorsqu'ils ont redémarré, l'objet est parti à une vitesse vertigineuse pour ne venir qu'un point dans le ciel. Il reste de l'inexpliqué encore aujourd'hui, Xavier Passot.
Oui, oui, bien sûr, il reste inexpliqué. Hein. Et je dirais le GEPAN n'a pas de remords ou ne pas à classer un cas inexpliqué. Hein. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cas inexpliqués, on manque totalement d'informations précises. Mettons ce cas des gendarmes. Bon, ça aurait été pas mal si on avait une photo, par exemple. Bon, il y en a pas. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on a juste le témoignage humain de deux gendarmes. Donc ils sont deux déjà, c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut évacuer déjà pas mal d'hypothèses, d'hallucinations, de choses comme ça, d'affabulations, des choses comme ça. Mais bon, il peut s'être agi aussi d'une méprise de je ne sais pas quoi. Je ne connais pas ce cas en détail. Voilà, donc il y a des cas inexpliqués. Alors, je profite de répondre à cette auditrice là qui avait vu quelque chose en novembre 1990.
À Paris, donc, elle disait qu'elle avait vu un triangle.
C'est un cas très célèbre. Hein, c'était le 5 novembre 1990. Il y a eu effectivement des milliers de témoins dans toute la France. Et c'était en fait la rentrée dans l'atmosphère d'un troisième étage de fusée russe qui avait été lancée quelques jours ou semaines avant. Et donc ce qu'elle a vu, en fait elle a vu trois parties de cette fusée qui s'est fragmentée en rentrant dans l'atmosphère. Et donc c'est comme
probablement
si
elle avait ce qu'elle a,
trois météorites à la fois, si vous voulez, et ça fait bien sûr un triangle. Alors certaines personnes ont vu des traînées derrière ces points lumineux, ce qui était tout à fait réel hein, d'ailleurs, et qui ont assimilé ça justement à la propulsion d'un objet.
Un engin triangulaire, nous a dit Sylvie. Mais voilà, en tout cas, la frustration de Sylvie qui peut être levée, elle sait ce qu'elle a vu en novembre 1990. Eh bien, merci d'avoir été en direct avec nous. Le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.